Bonjour, je m'appelle Pierre Craig. Bienvenue au balado Les petits caractères. Je suis journaliste. J'ai animé durant 13 ans l'émission La facture à Radio-Canada. Alors, la consommation, j'en connais un petit bout là-dessus. Option consommateur, c'est un organisme à but non lucratif qui vous informe et puis aussi qui défend vos droits depuis 37 ans. Vous imaginez bien que les avocats d'Option consommateur, eux aussi, en connaissent un bon bout. Ensemble, on a eu l'idée de vous présenter deux fois par mois ce balado, un balado qui touche votre vie de tous les jours. Que ce soit, par exemple, un voyage annulé, c'est cette saison, par la compagnie mais pas encore remboursé, un achat en ligne toujours pas livré, comment pouvez-vous défendre vos droits? Avec les avocats d'Option consommateur, je vais décortiquer tout ça pour que les petits caractères, vous savez, là, ceux qu'on dit jamais, moi non plus d'ailleurs, vous causent le moins de soucis possible. Dans notre dernier balado, on vous a parlé des coûts élevés que nous devons payer au Canada, on le sait tous, pour nos services de téléphonie cellulaire. Depuis, le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, a émis son ordonnance qui va permettre une certaine augmentation de la concurrence, ce qui aura pour conséquence une certaine réduction de notre facture. Aujourd'hui, changement de sujet, on parle de la crise du logement au Québec. Il y a très peu de logements loués, vous le savez comme moi. L'augmentation des loyers est catastrophique. Les reprises de possession par les propriétaires atteignent des sommets. Et tout ça se déroule pendant que la surchauffe du marché immobilier fait augmenter de façon absolument incroyable les prix des immeubles locatifs, entre autres. Bref, on a là tous les ingrédients d'une tempête parfaite. On en parle avec Maxime Roy-Allard, du Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec.
Bonjour Maxime.
Bonjour.
Le 24 avril, il y a eu une manif assez importante dans beaucoup de villes du Québec. Il y a des gens qui cherchent des logements qui n'en trouvent pas. Il y a une crise du logement, de loyer. Maxime, c'est quoi la situation actuelle en matière de coûts de loyer?
Mais d'abord, on manifestait samedi parce que le 24 avril, c'est la journée des locataires. Ça fait 9 ans qu'on célèbre ça à chaque année, même date. Puis cette année, sans surprise, on était vraiment beaucoup dans les rues parce que, il y a une crise du logement très sévère qui frappe la plupart des régions du Québec. Le coût des loyers augmente très, très rapidement. La Société canadienne d'hypothèques et de logement a publié en janvier des chiffres, puis on note une augmentation de 6% des loyers cette année. Donc ça, c'est beaucoup plus que l'inflation, c'est beaucoup plus que les taux suggérés par le tribunal du logement aussi. Donc ça veut dire que les gens ont de la misère à se trouver un logement abordable en ce moment. Puis surtout, il y a une pénurie de logements dans la plupart des villes du Québec. Il n'y a pas beaucoup de logements, puis les logements abordables sont très, très rares. Donc ça fait mal aux gens à faible revenu, mais aussi de plus en plus à la classe moyenne qui est touchée par cette crise-là.
Maxime, tu parles d'une augmentation de 6% que rapporte la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Dans l'esprit de beaucoup de gens, ça peut avoir l'air petit, 6%. Le maximum recommandé, là, est-ce que tu l'as en tête, le maximum recommandé par le tribunal du logement?
Mais s'il n'y a pas eu de travaux majeurs, s'il n'y a pas eu de forte augmentation de taxes, ce qui est le cas dans la plupart des villes là, actuellement, on devrait se tourner autour de 1, maximum 2% d'augmentation.
La hausse rapportée par la Société canadienne d'hypothèques et de logements est 3 fois plus élevée que le maximum recommandé par des gens qui connaissent ça, là. Les gens de l'ancienne régie du logement, ça s'appelle maintenant le tribunal du logement. Mais si on prenait un exemple, Maxime, là, un 4,5, là, c'est peut-être le type de logement un peu moyen, là. Ça peut valoir combien cette année?
Ça dépend dans quelle ville on est situé. Mais si on prend Montréal, par exemple, où la majorité des locataires du Québec sont situés, pour louer un 4,5, là, aujourd'hui, il faut s'attendre à payer au moins 1 200, 1 300, voire 1 500 $ par mois. Ça, c'est ce que révèlent les données quand on va fouiller sur Kijiji, là. Fait qu'il faut s'attendre à payer très, très cher. Ça, c'est pour les logements de relative bonne qualité. On peut en trouver peut-être un peu moins cher, mais il faut s'attendre à peut-être louer un taudis, un logement, un faux 4,5 aussi. Souvent, on voit là, des pièces doubles. Finalement, il y a juste une chambre à coucher. Trouver un 4,5 en bon état, il faut s'attendre à payer dans ces prix-là aujourd'hui.
Écoute, je ne sais pas, moi, je dois être de la vieille génération, mais il me semblait que les locataires qui sont quand même majoritaires à Montréal, par exemple, avaient une certaine protection contre les loyers abusifs au Québec. C'est fini, ça?
Mais c'est un mythe qui prévaut là, au Québec depuis longtemps, que les loyers sont encadrés. Oui, il y a des suggestions émises par le tribunal chaque année, Mais quand on est en situation de pénurie, les propriétaires ont le beau jeu, ils ont le gros bout du bâton, puis ils peuvent augmenter les loyers de manière importante. Puis c'est très difficile pour les locataires de contester, parce que s'ils contestent, ben ils risquent une éviction, ils risquent de se retrouver sans logement l'année suivante. Donc en ce moment, les locataires souvent vont accepter, malheureusement malgré eux, ces hausses de loyers-là, parce que les protections ne sont pas suffisantes. C'est pour ça qu'on réclame un contrôle obligatoire des loyers. La nuance est importante. En ce moment, ce n'est pas un contrôle obligatoire, c'est un contrôle suggéré, finalement.
OK. Mais ce que tu me dis, c'est qu'un des problèmes majeurs, c'est que le contrôle des loyers ou l'encadrement des loyers, ça repose exclusivement sur les épaules des locataires, c'est ça? Est-ce que je comprends bien?
Exactement. Le fardeau est sur les épaules des locataires parce que s'ils ne contestent pas, s'ils craignent de refuser de contester, bien, il n'y en a pas de contrôle. Alors que nous, on veut inverser ce fardeau-là, que ce soit au propriétaire de justifier la hausse de loyer qui est demandée. Et si le propriétaire veut davantage que les taux qui sont émis par le tribunal chaque année, bien, il devrait le faire fixer par le tribunal. C'est comme ça que ça fonctionne en Ontario. Ça semble très bien fonctionner. Malheureusement, ce contrôle-là a été mis en place trop tard, une fois que le mal était fait. On sait que les loyers sont très, très chers en Ontario. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est attendons pas d'être devenu l'Ontario pour mettre en place un contrôle comme ça. C'est maintenant que ça le prend pour éviter le pire puis éviter que les loyers augmentent trop vite.
Moi, dans ma tête, dans mon passé, dans mon histoire, mon propriétaire, j'ai été locataire pendant de nombreuses années, bien sûr, augmentait le loyer d'une façon que je jugeais pas correcte. Je pense que j'avais 3 mois pour dire, je me rappelle pas, j'avais un délai pour dire si j'étais d'accord ou pas. Je le disais et c'était à moi d'aller à la régie du logement, ça s'appelait comme ça à l'époque. Toi, ce que tu proposes, c'est le contraire. Peux-tu nous réexpliquer ça un petit peu pour que ce soit bien clair?
Donc d'abord, les propriétaires doivent envoyer les avis d'augmentation de loyer de 3 à 6 mois avant la fin du bail. Donc, si on a un bail classique là, du 1er juillet au 30 juin, ben c'est entre le 1er janvier puis le 31 mars qu'il doit envoyer. Ensuite, le locataire a 1 mois pour répondre à l'avis. Et il peut évidemment refuser la hausse de loyer puis garder son logement. Ça, c'est un droit reconnu que malheureusement, beaucoup de propriétaires tentent de contourner en évitant de suggérer cette option-là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que de facto, si le taux suggéré par le tribunal, c'est, disons, 1,5% cette année, si le propriétaire a fait des travaux importants, puis lui juge qu'il a le droit à 3% cette année, mais il devrait ouvrir, lui, le dossier au tribunal, qui, lui, va fixer le prix, le nouveau loyer, finalement. Et puis, lorsqu'il y aura l'audience au tribunal, bien, le propriétaire devra amener toutes les factures, devra justifier la hausse. Le locataire pourra regarder les factures pour voir si véridique et tout. Mais actuellement, il y a très, très peu de loyers qui sont fixés par le tribunal parce que les locataires ne contestent pas et très peu se rendent au tribunal, finalement.
Pourquoi les locataires ne contestent pas, Maxime?
Mais d'abord, il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui ont le droit de refuser tout en gardant dans leur logement. Il y a des propriétaires qui, quand ils vont envoyer l'avis d'augmentation, ils vont seulement signaler 2 options, accepter la hausse ou refuser la hausse puis quitter son logement, alors qu'il y a une 3e option, évidemment, de refuser et garder son logement. Et aussi, beaucoup de locataires craignent de refuser par peur de représailles. Puis on le voit souvent, si on refuse une hausse de loyer, ben l'année suivante, on voit une éviction se pointer le bout du nez. On voit des travaux qui étaient promis ne pas se réaliser. Les locataires ne veulent pas se mettre en conflit avec leurs propriétaires parce qu'ils ont un pouvoir sur eux, finalement.
Moi, à l'époque, j'entendais parler de listes noires de locataires. Il y avait des associations de propriétaires qui fabriquaient des listes de gens qui avaient été contestés à la régie du logement et qui se passaient ça les uns les autres. Est-ce que ça existe encore, ça?
Non, ça a été un combat qu'on a mené d'ailleurs dans les années 80 de faire bannir ces listes noires-là qui, finalement, ont été jugées illégales. Donc, elles n'existent plus. Par contre, ce que les associations de propriétaires se sont renouvelées, et là, ce qu'ils font, c'est des listes noires au cas par cas. Donc, quand un propriétaire souhaite avoir de l'information sur un locataire X ou Y, bien, ils vont aller fouiller son passé. Ils vont aller voir s'il y a des décisions contre lui ou elle au tribunal du logement. Et on va aller voir ses employeurs, on va aller voir son ancien propriétaire. Donc, finalement, il n'y a pas de liste noire de A à Z, mais on l'a fait au fur et à mesure que les propriétaires demandent des informations sur les locataires.
Il arrive qu'on aille voir l'employeur de locataire pour s'informer, sur, je présume, sur sa capacité de payer ou je ne sais pas quoi. On fait ça, on a le droit de faire ça.
C'est là, il y a la loi, puis il y a dans les faits, si le locataire, dans le document pour être un candidat potentiel au logement, si on ne remplit pas les informations, si on dit que c'est abusif, ces informations-là, on n'aura pas le logement. Le propriétaire va juste ignorer notre candidature puis va se tourner vers le prochain candidat. Fait que c'est bien beau les protections par la loi, mais souvent dans les faits, c'est une relation de pouvoir asymétrique. Et donc, on va juste pas avoir le logement finalement.
J'écoutais le ministre responsable de tout ça, André Laforêt, avec, à Radio-Canada en entrevue, et a dit « Oui, mais avec la loi 16, on a créé la section G des baux pour obliger le propriétaire à indiquer dans la section G quel était l'ancien loyer du logement qu'on veut louer. » Bon, est-ce que ça, c'est pas un grand pas en avant, Maxime?
D'abord, la ministre, c'est, désolé, là, mais complètement dans le champ. La section G n'a pas été créée par le projet de loi 16, elle s'approprie des victoires ici, là. C'est malheureux. Mais la ministre mêle souvent les dossiers. Elle n'a pas créé cette section-là, elle existe depuis des années. Et oui, elle est obligatoire, la section G, certes, mais les propriétaires souvent ne vont pas la remplir. Il n'y a aucune conséquence si on ne la remplit pas. Et même si elle est remplie...
Pas de sanction. Je veux dire, tu ne la remplis pas, tu n'as pas de sanction.
Il n'y a aucune sanction, il n'y a rien qui est prévu dans la loi comme sanction. Et donc, même si les propriétaires remplissent la section G, donc on indique l'ancien prix payé par les locataires qui étaient là avant nous, mais il n'y a rien pour vérifier. À moins que les locataires précédents nous laissent une copie de leur bail, là, ce qui arrive très peu, mais il n'y a aucune information, il n'y a pas de registre des loyers. Donc, comment faire pour valider cette information-là? C'est extrêmement difficile.
Donc, on vit une crise du logement. Il n'y en a pas disponible. Les gens s'arrachent les logements disponibles. Et donc, quand ils en trouvent un, comme tu dis, ils n'ont pas la mobilisation ou la motivation pour aller contester un loyer. Ils ont trop peur de perdre ce logement-là dans un avenir moyen ou rapproché ou je ne sais pas quoi, là.
Exactement. Les gens font la file pour les logements. On s'arrache, on renchérit même sur le prix des loyers. Donc, on ne va pas commencer à badiner puis à dire... tu me demandes une information ou deux de trop, on va le signer le bail, puis on va même offrir des dépôts de garantie qui sont pas légales au Québec. Là, on n'est pas supposé demander des dépôts de garantie, mais les locataires vont les offrir quand même parce qu'ils ont peur de ne pas avoir le logement, là.
Maxime, quand on parle des locataires, là, on parle pas d'une minorité quand même, là, on parle de combien? Écoute, dans mon temps, c'était 75% à Montréal. Le taux de locataires, c'est rendu à combien maintenant? Est-ce que c'est en dessous de la barre des 50%, c'est quoi?
Donc, ça a diminué au fil du temps. Au Québec, on est à 40% de ménages locataires, mais pour Montréal, on est à 60%. Donc, c'est 60%. Quand même encore une forte majorité des personnes qui habitent la métropole qui sont locataires et qui sont victimes, finalement, de ce marché de l'immobilier qui est complètement déchaîné actuellement, là, qui subissent les contre-coups de la spéculation immobilière.
Bon, c'est sûr que crise du logement, ça va avec la surchauffe immobilière. Là. Ces deux choses-là sont totalement liées.
Ah, c'est intrinsèquement lié. Parce que, par exemple, quand les nouveaux propriétaires achètent des duplex ou des triplex qui ont triplé de prix en quelques années, bien, les loyers, évidemment, n'ont pas doublé ou triplé en ces quelques années-là, heureusement. Et là, les nouveaux propriétaires arrivent et ils réalisent qu'il y a un manque à gagner dans leur budget au fil de l'année parce qu'ils ont tellement payé cher l'immeuble qu'ils veulent se rattraper et donc refiler la facture aux locataires. Et souvent, bien, la meilleure manière de faire ça, c'est de les évincer puis d'augmenter le loyer très, très rapidement. C'est ce qu'on voit beaucoup, mais beaucoup de plus en plus. Puis ça, c'est donc la spéculation immobilière, la surchauffe provoque des effets collatéraux sur les locataires.
La section G, là, s'il y avait des sanctions reliées au fait de mettre de ne pas la remplir ou de mettre de fausses informations, est-ce que ça pourrait être une solution?
Oui, certes, forcer les propriétaires à remplir la section G, mais il reste toujours qu'il manque quelque chose dans l'équation. Là. Sur quel prétexte les locataires vont condamner, vont dénoncer les propriétaires que ce n'est pas la bonne information? Ils ne l'ont pas. C'est pour ça que la vraie solution, c'est vraiment un registre des loyers publics, où là, on serait sûr à 100% que le loyer payé par les anciens locataires serait le vrai. parce que là, ce serait une déclaration faite par les propriétaires chaque année via un formulaire comme le relevé 31 qui est envoyé au ministère des Finances chaque année pour fin d'impôt. On l'aurait là, très facilement à notre registre des loyers avec ce formulaire-là par ailleurs.
On a comme l'impression que le pouvoir politique abandonne les locataires du Québec. Écoute, est-ce que je vais trop loin, Maxime, en disant ça?
Non. Moi, je pense que c'est ce qui se passe aussi. Les gouvernements successifs n'ont pas les intérêts des locataires très à cœur dans leur programme politique. C'est pas des enjeux qui n'ont été vraiment abordés dans les campagnes électorales. Mais là, j'ai hâte de voir si la crise se perpétue. Puis dans la prochaine élection provinciale, on est encore dans une situation aussi dramatique. Je pense que ça va être un enjeu électoral dominant. Puis j'ai hâte de voir les solutions qui vont être apportées par les différents partis politiques. Et j'espère que la CAQ va, d'ici là, retourner un peu son discours et va s'adresser la question là, réellement.
Maxime, es-tu découragé?
Ça dépend des jours. Honnêtement, quand je vois les déclarations de la ministre aussi farfelues que dans les dernières semaines, ça me décourage, oui. Mais en même temps, on vit d'espoir, puis on espère que en continuant de porter ces solutions-là, ça fait plus de 40 ans qu'on existe, nous, au regroupement des comités logements. C'est en maintenant ce discours-là dans l'espace public que des fois c'est récupéré par des partis politiques qui amènent ces solutions à l'Assemblée nationale et aident la situation des locataires finalement.
Parce que finalement, là, on crée de la pauvreté en laissant aller ça. Je veux dire, les gens là, qui vont payer 1200, 1400 pour un 4 pièces et demi, là, c'est de l'argent qu'ils ne mettront pas sur les enfants, sur autre chose. On crée de la pauvreté littéralement.
Oui, la situation du logement est directement liée avec la situation de la pauvreté en général. Plus les loyers augmentent, évidemment, plus des ménages vont s'appauvrir puis vont moins avoir la chance de dépenser de l'argent dans leurs besoins de base, là. Et ça fait évidemment rouler l'économie, mais finalement, on enrichit aussi une classe minoritaire. Là. Les propriétaires bailleurs ne sont pas nombreux. Là. C'est quelques pourcentages. On n'a pas de chiffre à jour, malheureusement, mais on est dans l'ordre de peut-être du 4, 5, 6 % de la population du Québec comparé à 40 % là, de locataires. Donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas ici. Pourquoi on encourage les poches d'une très faible minorité sur le bien-être d'une grande majorité de personnes.
Et comme si ce n'était pas suffisant, Maxime, il y a toute la question des, bon, j'allais dire des maudites, là, c'est peut-être pas un mot employé dans un podcast, dans un balado, la question des rénovictions dont on entend beaucoup parler. Peux-tu juste nous résumer, là, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, là, mais il faudrait juste avoir une bonne idée de ce que c'est exactement.
Ouais. Pour nous, une rénoviction, c'est des prétextes de travaux majeurs dans le but d'évincer des locataires pour augmenter les loyers rapidement. Donc, par ailleurs, les travaux ne sont pas toujours réalisés. Des fois, c'est réellement un prétexte. Des fois, les travaux sont faits aussi. Il y a beaucoup de logements qui nécessitent des rénovations. Mais au Québec, quand il y a des rénovations majeures, la loi est très claire. Les locataires ont le droit de retourner dans le logement par la suite. Donc, leur bail continue. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire signer des papiers aux locataires pour résilier leur bail et donc ils perdent leur droit de revenir dans le logement. Et là, on va leur offrir, si les locataires sont chanceux, on va leur offrir une somme d'argent, quelques milliers de dollars. On voit des fois des 15, 20 000 dollars là, qui sont offerts même aux locataires pour les convaincre de partir.
Donc, ça veut dire que les profits sont à l'avenant. Là. Si on offre 20 000 $ à un locataire pour quitter le logement, ça veut dire que tu vas faire un sacré profit sur le même logement par la suite.
Oui, surtout pour un immeuble où les loyers étaient faibles. Si on évince les locataires, on rénove, l'immeuble prend énormément de valeur parce qu'il y a un gros potentiel à profit à aller chercher rapidement. Donc oui, puis là, on le voit de plus en plus parce qu'il y a une pénurie de logements et donc c'est facile de relouer les logements très chers. Donc les propriétaires vont sauter sur des immeubles avec des faibles loyers pour les flipper, comme on dit. Ils vont les rénover, ils vont des fois les transformer en condos aussi pour les revendre par la suite.
Est-ce que, Maxime, t'encourages les gens à se battre quand ils font face à ça?
Ben oui, nous, on est là pour aider les locataires à s'organiser s'ils veulent se battre. Mais les gens réalisent souvent que c'est rapidement un David contre Goliath. Les gens ne se battent pas à armes égales, finalement. Nous, on va tout mettre en place pour les aider, pour les informer de leurs droits. On a du matériel pour mobiliser les gens, donc on est là pour les aider. mais je comprends aussi les gens d'être un peu découragés, puis ils ne veulent pas en faire un combat de vie, là. Pour eux, c'est leur lieu de vie, c'est leur logement. Si ce lieu-là devient trop toxique, finalement, où ils subissent du harcèlement par le propriétaire, s'il y a des travaux qui se passent dans les logements voisins, je les comprends aussi de vouloir partir puis de trouver un milieu qui va être agréable où ils vivent, puis ils vont pas être stressés à chaque jour de rencontrer le propriétaire qui va les inviter à partir de manière répétée.
Toute la question là, de l'éviction des locataires à des fins de transformation des logements, c'est régi par le Code civil. Est-ce qu'il y aurait lieu de faire des changements au Code civil?
Oui, il faudrait faire une panoplie de modifications au Code civil pour encadrer les évictions de locataires, aussi pour punir davantage les propriétaires qui utilisent ces tactiques-là à des fins illégales, finalement, pour spéculer puis convaincre les locataires de partir. Mais ultimement, ce qu'il faut, c'est empêcher l'objectif qui est désiré derrière ces évictions-là. Puis l'objectif, c'est d'augmenter les loyers. Puis là, j'en reviens à la question d'un contrôle obligatoire des loyers et d'un registre des loyers. C'est vraiment ça les mesures phares qui viendraient limiter le plus toutes ces évictions-là, parce qu'on empêcherait l'objectif désiré dans ces évictions-là.
As-tu l'impression que c'est une côte impossible à monter, ça? Encadrement des loyers, contrôle des loyers, c'est-à-dire renversement du fardeau de la preuve, d'une part, et registre obligatoire des loyers. As-tu l'impression, parce que là, la ministre parlait d'un comité transpartisan qui est mis sur pied par elle, là, ou son gouvernement, là, avec les partis d'opposition, mais as-tu l'impression que c'est une côte qui est quasiment impossible à monter?
Ça dépend de quel point de vue on le regarde. Je pense que la ministre, pour elle, ne veut pas s'aventurer là-dedans. Donc, ça semble quasi insurmontable. Mais je pense que ça serait très facilement surmontable. Il suffit d'un peu de volonté politique, puis d'être un peu à contre-courant du discours dominant qui veut que le marché de l'habitation ne devrait jamais être soumis à des réglementations de l'État. On est vraiment dans ce discours-là, la propriété privée, on peut pas se toucher à ça, faut pas que ce soit encadré. Faut qu'il y ait un discours qui vienne un peu changer à ce niveau-là parce que il y a personne qui veut s'attaquer à ça en ce moment, mais finalement tout le monde est touché par ça. Propriétaires et locataires sont affectés par la flambée des prix de l'immobilier. C'est l'accès à la propriété, c'est l'accès au logement finalement qui est affecté.
Je ne voudrais pas oublier de parler des questions de discrimination et de salubrité, parce qu'on en entend parler aussi, puis ça m'a l'air extrêmement important. On entend aussi dire que les couples avec enfants, ou malheureusement des couples immigrants, ont, semble-t-il, des fois de la misère à se trouver des logements. Est-ce que c'est des choses dont vous entendez souvent parler, ça, vous autres?
Ah oui, il y a énormément de discrimination, surtout actuellement parce que on est en pénurie de logements importants, donc il y a peu de logements disponibles. Donc, ça veut dire que les propriétaires ont le loisir de choisir leurs meilleurs candidats selon eux. Alors que, faut savoir, la discrimination, c'est illégal là, en vertu de la Charte québécoise des droits. Donc, on ne peut pas discriminer sur l'âge des personnes, on ne peut pas discriminer sur la couleur de la peau, sur l'origine ethnique, sur l'orientation sexuelle, on ne peut pas discriminer sur la condition sociale. C'est important parce qu'on le fait beaucoup parce que les gens sont sur l'aide sociale, sont sur le chômage, n'ont pas des revenus qui nous apparaissent assez élevés. Alors que la seule chose que le propriétaire aurait le droit de discriminer, là, en quelque sorte, c'est de prouver qu'il n'a pas la capacité de payer.
La discrimination, Maxime, c'est contrôlé par le tribunal des droits de la personne. C'est pas contrôlé par le tribunal du logement. Est-ce que, puis c'est bien beau d'avoir des droits, mais il faut avoir les moyens relativement rapides de pouvoir les exercer. Est-ce qu'avec le tribunal des droits de la personne, la question de la discrimination peut être réglée relativement rapidement?
Non, c'est très long les démarches, là. D'abord, il faut faire une plainte à la Commission des droits de la personne. Et si notre dossier est retenu, là, ça va se rendre au tribunal des droits de la personne, mais on parle d'années, là. Puis finalement, ça ne nous donne pas un logement. Ça va nous donner peut-être quelques milliers de dollars en dommages punitifs aux propriétaires. Mais je comprends les locataires aussi de ne pas vouloir se lancer là-dedans. Il y a très, très peu, là, de dossiers qui sont ouverts chaque année. Parce que les locataires, ce qu'ils veulent, c'est pas quelques milliers de dollars pour punir le propriétaire. Ce qu'ils veulent, c'est un logement. Et donc, évidemment, comme les propriétaires ont le gros bout du bâton actuellement, puis c'est pas la loi du premier arrivé, premier servi qui prévaut, ben, il y a beaucoup de discrimination. Puis tant que les taux d'occupation vont être faibles, autour de 1 ou 2 %, ben, il y aura toujours de la discrimination, malheureusement.
La question de la salubrité, parce que ça, tu disais au début, les loyers sont tellement élevés que ça va obliger les gens, d'une certaine manière, à aller louer des taudis. Mais les taudis, c'est supposé être contrôlé par la loi aussi. Il y a des règlements municipaux sur la question de la salubrité. Moi, ça fait qu'on a encore des... Ben, comment ça se fait? Je me sens un peu stupide de poser cette question-là. On a encore beaucoup de problèmes de salubrité, hein?
Il y a beaucoup de logements insalubres. Puis ça veut dire des gens qui grandissent dans des conditions désastreuses, qui peuvent nuire à leur santé pour le reste de leur vie. Là. Les enfants qui grandissent dans un logement rempli de moisissures, ça va les affecter. Ils vont développer des maladies pulmonaires. Donc, il y a environ le tiers des logements montréalais qui ont des problèmes de salubrité. Pas toujours des logements totalement insalubres à l'extrême qu'on peut l'imaginer dans les médias, mais certains problèmes d'infiltration d'eau, de moisissures, de coquerelles, de souris ou de rats. Donc, il y a beaucoup de logements insalubres. Cela dit, à Montréal, il y a eu certaines avancées dans les dernières années. On a mis davantage de ressources, davantage d'inspecteurs sur le terrain pour faire des inspections puis forcer les propriétaires à faire les rénovations nécessaires, finalement.
Alors, si on veut pas voir Montréal devenir un autre Toronto ou un autre encore pire Vancouver, où je pense que les loyers sont encore plus élevés, je pense qu'il va y avoir une urgence de regarder toute cette question-là. D'autant plus, comme tu me le disais, que, écoute, à Montréal, là, 60% des ménages sont locataires. Me semble que c'est une situation qui devrait être regardée d'extrêmement près. Merci beaucoup, Maxime. Merci pour cette entrevue-là.
Merci beaucoup à vous.
Il n'y a pas que les associations de locataires qui réclament au gouvernement des actions à la hauteur de cette crise-là. Le 22 avril dernier, la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, qui regroupe 82 municipalités qui comptent la moitié de la population du Québec, a demandé au gouvernement d'agir. La CMM demande le renouvellement du moratoire sur les évictions qui était en vigueur entre mars et juillet 2020. La CMM demande elle aussi, c'est important, de changer la loi pour que ce soit dorénavant les propriétaires qui aient l'obligation de faire la preuve que leurs augmentations de loyer, leurs évictions et les rénovations et subdivisions qu'ils veulent faire soient justifiées. Vous avez des questions? Vous vivez d'autres genres de situations? Suivez Options Consommateurs sur Facebook ou Twitter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre balado. Allez, on se retrouve dans deux semaines.